Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Établissements scolaires fermés, rassemblements encore plus limités en France. Face au coronavirus, le pays glisse progressivement vers des mesures plus restrictives. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'annonçait hier soir, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal aussi, reportage au Mexique où des milliers de femmes se sont mobilisées hier, journée internationale des droits des femmes. Ce lundi, une grève massive est annoncée dans un pays où les féminicides sont très nombreux. Et puis nous irons aux Pays-Bas, à La Haye, où commence aujourd'hui le procès de trois Russes et d'un séparatiste ukrainien, près de 6 ans après le crash du vol MH17. La France reste au stade 2 dans la gestion de l'épidémie du coronavirus. À l'issue du Conseil de défense réuni hier soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, une série de mesures a tout de même été annoncée pour freiner la propagation de ce virus. Le ministre de la Santé a notamment interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes en France. Olivier Véran a également précisé pourquoi certains départements fermaient leurs établissements scolaires et d'autres non.
Le freinage s'organise donc de manière distincte selon les territoires et durera aussi longtemps qu'on constatera sa légitimité scientifique. L'application du freinage répond donc à deux principes, la différenciation et la proportionnalité. Chaque mesure de freinage doit être entreprise territoire par territoire au bon moment. C'est la différenciation. C'est par exemple, et à ce stade, la fermeture des crèches et des établissements scolaires dès qu'une zone devient à circulation virale activée. La proportionnalité, c'est garantir la continuité de la vie sociale, économique et démocratique de notre pays, tout en limitant les risques de diffusion du virus dans la population, en interdisant des rassemblements de population lorsqu'ils ne sont pas indispensables. À l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours aux transports en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation.
Reste donc à savoir encore ce matin si tous les spectacles et les rassemblements sportifs seront également annulés. Ce qui est certain, c'est que ce matin, plus de 300 000 élèves n'auront pas cours dans leur établissement, ce qui se situe dans l'Oise, dans le Haut-Rhin et à Ajaccio, en Corse du Sud. La France est le deuxième pays le plus affecté en Europe, avec 1100 personnes contaminées et 19 morts. Et en Europe, justement, loin devant, il y a toujours l'Italie, qui devient même le pays le plus touché derrière la Chine. Hier, le gouvernement a décidé de mettre en quarantaine une grande partie du nord du pays, de Milan, capitale économique, jusqu'à Venise, haut lieu du tourisme mondial. 16 millions de personnes voient ainsi leurs déplacements limités, tous les lieux publics sont fermés. Notons également un nouvel effondrement ce matin des marchés boursiers asiatiques, en particulier à Tokyo. Elles ont marché un peu partout dans le monde. En ce dimanche 8 mars, hier, des milliers de femmes défilaient à Paris, dans le calme et sous la pluie. Idem à Bruxelles ou à Madrid. Des rassemblements ont été réprimés en revanche au Pakistan ou au Kirghizistan. Des rassemblements massifs également hier au Chili et au Mexique. À Mexico d'ailleurs, des dizaines de milliers de femmes ont réclamé justice pour les victimes de violences machistes, une mobilisation inédite dans le pays, provoquée en fait par la médiatisation récente de plusieurs cas de féminicides particulièrement barbares. Après les défilés hier, une grève massive est prévue aujourd'hui au Mexique, une journée sans femmes, pour protester aussi contre la passivité du gouvernement Emmanuel Stills.
Le gouvernement n'en a rien à cirer des femmes qui sont tuées. Ce sont les mots lancés par Malu Garcia Andrade, la sœur d'une femme assassinée, lors de la présentation d'un rapport sur les féminicides au Mexique. Et c'est ce même constat qui pousse les femmes mexicaines à faire grève ce lundi. Nicole Huete, une jeune féministe, explique que ce mouvement sans précédent veut secouer les institutions qui laissent les femmes se faire tuer.
Nous nous rendons compte à quel point les institutions laissent tomber les femmes et comment cela finit en féminicide. Par exemple, dans le cas d'une jeune femme assassinée récemment, elle avait dénoncé son compagnon pour violence. Mais en plus de cela, les photos de son corps ont été filtrées par la police et les médias les ont publiés. C'est un cumul d'irrégularités, même après sa mort. Alors les femmes s'indignent davantage et se mobilisent davantage.
La grève des femmes engrange une participation bien au-delà des cercles féministes habituels. Sur les réseaux sociaux, le mouvement s'annonce massif. Mais selon Lucia Lagunes, une journaliste féministe, ce n'est pas seulement le nombre de femmes qui soutiennent la grève qui indique son succès.
Au-delà de la participation, nous avons déjà réussi. Parce que tout le monde parle de la grève, du pourquoi de ce mouvement. Je crois qu'une partie du chemin est déjà parcourue indépendamment du nombre de femmes qui n'iront pas travailler, ou des femmes qui se croiseront les bras à la maison, qui n'iront pas au supermarché. C'est une journée que les femmes consacreront à elles-mêmes.
D'ores et déjà, le Mexique est obligé d'imaginer ce que pourrait être un jour sans femmes.
C'était Emmanuel Stills depuis Mexico pour France Culture à l'aube d'une grève qui s'annonce donc très suivie. Recep Tayyip Erdogan sera cet après-midi à Bruxelles pour rencontrer les responsables de l'Union européenne. Ils doivent évoquer ensemble la crise migratoire et la guerre en Syrie. Le président turc demande en effet le soutien de l'Europe dans son conflit face au pouvoir syrien et il menace sans cela de laisser encore ses frontières ouvertes. Des centaines de migrants ont déjà pris le chemin de la Grèce et sont désormais coincés à la frontière. Partons maintenant aux Pays-Bas, à La Haye, où s'ouvre ce matin le procès attendu des responsables présumés de l'explosion du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Le 17 juillet 2014, parti d'Amsterdam et à destination de Kuala Lumpur, le Boeing a explosé dans l'est de l'Ukraine en plein conflit armé. Selon l'enquête internationale, l'appareil a été abattu par un missile d'origine russe tiré par des indépendantistes pro-russes. Les 298 personnes à son bord sont mortes. Elles étaient en majorité néerlandaises. Et 6 ans plus tard, leurs proches ont manifesté devant l'ambassade russe à La Haye. Antoine Moto.
Devant l'ambassade de Russie à La Haye, sous la pluie au milieu d'un parterre de crocus, Silène Fredericks déballe des chaises pliantes.
Nous sommes en train d'installer 298 chaises vides. Elles symbolisent le vide que nos proches ont laissé derrière eux. L'ambassade russe est devant nous. Nous demandons à la Russie de coopérer, d'arrêter de mentir.
Comme les dizaines de personnes présentes ici, le 17 juillet 2014, Silène a perdu des proches. Son fils Bryce, 23 ans, et sa petite amie Daisy, 20 ans. Ils se trouvaient à bord du MH17 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur.
Le matin, je les ai serrés dans mes bras et leur ai dit de laisser leurs soucis ici. Quelques heures plus tard, ils ont disparu, assassinés au-dessus de l'Ukraine.
Selon l'enquête internationale, l'avion a été abattu dans l'est de l'Ukraine par un missile Buk de fabrication russe, tiré dans la région par une unité indépendantiste pro-russe. Moscou nie toute implication, mais pour Silène, il n'y a aucun doute.
Il y a beaucoup de responsables, mais tout en haut de l'échelle, il y a le président Poutine, il était au courant.
Elle espère beaucoup du procès qui s'ouvre ce lundi dans un tribunal ultra sécurisé près de l'aéroport de Schiphol. 3 ressortissants russes et 1 ukrainien y seront jugés par contumace.
C'était Antoine Moutot pour France Culture. Les soutiens du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris ont encore quelques jours pour signer la pétition en ligne. Le délai expire ce jeudi à minuit. En 9 mois, près d'1 120 000 personnes ont signé cette pétition, loin donc des 4,7 millions de signatures nécessaires, c'est-à-dire 1/10 du corps électoral. Les soutiens de ce RIP, référendum d'initiative partagée, fustigent toujours le refus du gouvernement de lancer une campagne officielle avec des spots publicitaires par exemple. Ils fustigent également le peu d'espace médiatique donné selon eux à cette pétition. Jean-Marie Charon est sociologue des médias. Pour lui, c'était une expérience inédite pour faire fonctionner la démocratie participative et cela reste donc expérimental.
On est face à un objet en matière de procédure qui est complètement étranger à nos modes de décision, en tout cas pour la France. Et du coup, le fait de s'interroger sur comment les médias peuvent jouer un rôle en termes de promotion de l'idée, de débat autour de l'idée, d'avoir effectivement des controverses qui puissent y être menées, ça nous a amené à la fois de nous poser la question d'avoir un arbitre, un intervenant extérieur qui donne son point de vue, et en même temps, à partir du moment où le sujet est moins d'actualité, c'est en train de sortir de la réflexion collective, quoi. Toutes ces procédures de consultation, de contestation de décision qui ne rentrent pas dans nos cadres législatifs et de régulation traditionnelle, il faudrait qu'on y réfléchisse, qu'on s'empare d'ailleurs des expériences. Je pense que ça serait dommage, par exemple, que là, que ça débouche ou que ça ne débouche pas, mais qu'on n'ait pas une réflexion pour essayer d'identifier ce qui n'a pas fonctionné et en quoi, effectivement, cette procédure pourrait être davantage intégrée dans le travail des rédactions, notamment. Quoi.
Des propos recueillis par Sophie Delpont. La météo de ce jour avec des averses et de belles éclaircies un peu partout. 11 degrés ce matin à Bayonne, 8 à Paris et Lille, 9 degrés à Rennes et 12 près de la Méditerranée.